Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous habitons dans un monde cassé. C'est évident. Et quand tout vole en éclats, comment s'orienter? Comment récupérer? Comment se diriger? Comment persévérer dans la foi? Eh bien, je suis très content que la Bible contienne des exemples à suivre, des personnages qui ont traversé la vie mouvementée, les injustices, la persécution, le doute, même les erreurs, et qui ont commencé à suivre Dieu, qui ont continué à suivre Dieu. Et ce matin, je vous invite a fait un survol sur le livre de Genèse. C'est vrai que nous étions à Zaventem. J'étais là pour prendre l'avion. Ce jour-là, ça n'allait pas. Mais ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Genèse. Nous allons survoler le livre, mais en particulièrement la vie de Joseph. Mais Genèse veut dire commencement. Genèse, vous pouvez le diviser en deux grands morceaux. Chapitre 1 à 11, Dieu va commencer le monde. En chapitre 1 et 2, nous avons la création. 3 et 4, chute de l'homme. Adam et Ève vont mourir en chapitre 3. En chapitre 4, on voit un frère qui tue son frère. Et puis de 5 à 10, c'est les généalogies. Adam à Noé, Noé à la famille d'Abraham. Entre 5 et 10, Dieu a un ras-le-bol. Il a détruit le monde. Il a dit à Noé, « Noé, tu fais une arche. Construis, la pluie va tomber pendant 40 jours, l'eau va monter et le déluge va détruire tous sauf toi et ta famille. » Il y aura un arc-en-ciel qui promet que je ne vais jamais détruire le monde par l'eau encore. Et puis, 12 à 50, nous avons quatre personnages principaux. Abraham, son fils, un fils miraculeux, Isaac. Et puis, Jacob. Et puis, Joseph. Mais Joseph fait en proportion, Joseph occupe un tiers de Genèse. Ce n'est pas la création, c'est Joseph qui prend un tiers de Genèse. C'est énorme, un tiers, une vie très mouvementée, cette proportion. Mais structure, grâce à le Saint-Esprit, est ordonné pour qu'on puisse retenir quatre parallèles dans sa vie. Et un pivot inoubliable. Et ce matin, dans notre cerveau, vous avez les ceintures bien serrées? Allez-y, parce qu'on va décoller maintenant. Joseph, il vient d'une famille recomposée. L'amour était absent. L'amour était déséquilibré parce que le texte dit en chapitre 37 que Jacob aimait Joseph plus que les autres parce que sa femme qu'il aimait, sa chérie, c'était Rachel. C'est elle qui a mis au monde Joseph. Et Jacob avait attendu longtemps, il était trompé par son oncle, il y avait toutes sortes d'histoires, on ne va pas regarder ces détails. Mais à Joseph, il aimait, il a fait un habit coloré, et ses frères, disait verset 4, ses frères vinrent que le père aimait Joseph plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et le papa l'envoyait souvent pour avoir un peu le report de leur travail, qui était souvent mauvais, les mauvais travailleurs. Et donc, ils ont considéré Joseph comme un petit espion. Et un jour, Joseph avait deux rêves. Deux rêves. Premier rêve, il a raconté à ses frères, j'ai rêvé hier. Et éventuellement, vous allez vous prosterner devant moi. Il a fait un deuxième rêve. Et il explique à son papa et ses frères, papa, toi aussi, tu vas se prosterner devant moi. Je vais régner dans la famille. Joseph n'a pas cherché ses rêves. Il a reçu ses deux rêves. Deux rêves. Et évidemment, ça a juste ajouté un coup d'huile sur le feu, n'est-ce pas? Donc, il avait plus de haine pour Joseph qu'avant. Et voilà. Jacob l'envoie encore une fois de vérifier le travail. Et là, il voit Joseph qui arrive. Il dit, oh, regarde qui vient, le petit espion. On doit le tuer. On va le tuer. Et Ruben a dit, non, ça c'est un peu... Il est un de nos frères, on ne peut pas le tuer, son sang est important, mais jetez-le dans cette citerne, laisse-moi réfléchir. Et Ruben est parti. Et Judas a dit, écoute, on est juifs, hein? On va faire des marchandises. On peut faire un petit argent avec Joseph. Regarde qui viennent nos cousins, les Ismaélites. On peut le vendre aux Ismaélites. Ok, d'accord, donc les Ismaélites passent, ils vendent le frère aux Ismaélites. Ils sont en route pour l'Égypte d'habitude, parce que le pays est là pour eux. Et donc, Joseph est vendu en fait deux fois. Il est vendu aux Ismaélites, et puis les Ismaélites le vendent à Potiphar, chef de garde du pharaon en Égypte. Donc il y avait deux rêves, maintenant il est vendu deux fois, et chez Potiphar, on est en verset, le premier verset de chapitre 39. Mais je veux d'abord juste mentionner une petite parenthèse. En fait, c'est une grande parenthèse. En 38, nous avons tout un chapitre qui est dédié à Judas. Nous voyons comment Judas était méchant. Il a vendu son frère pour l'argent. Et puis, verset 1 de 38 dit, « En ce temps-là, Judas s'éloignait de ses frères. » Il s'éloignait, il habitait d'autre part. Il était malhonnête, il était immoral. Ce n'est pas un bon gars, Judas. C'est horrible. Et puis, 39, on continue à voir, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta de ses Ismaélites, qu'il avait fait descendre. Et puis, verset 2, c'est très important pour cette histoire. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Dieu n'a jamais oublié Joseph. Il a donné deux rêves. Il est vendu deux fois. Et maintenant, il va avoir deux foyers en Égypte. D'abord chez Potiphar. Et la femme de Potiphar voit aussi que Joseph est exceptionnel. Il veut coucher avec Joseph. Et déjà, dans le premier huit versets, l'Éternel est mentionné cinq fois. Il est avec Joseph. Il aide Joseph. Même Potiphar voit que l'Éternel est avec Joseph. Son témoignage parle. Potiphar constate que l'Éternel est avec ce gars. Tout ce qu'il faisait, avancer la maison et les champs de Potiphar. Mais la femme veut coucher avec Joseph. Elle insistait, Joseph résistait. Et je veux tirer votre attention à verset 9 de chapitre 9, 39. Donc pensez, 39, 9. Notez ça quelque part, 39, 9. soulignez dans votre Bible. 39.9. Pas de Bible aujourd'hui, ça va. Prenez une petite note. 39.9, rentrez chez vous, trouvez une Bible quelque part. Faites une petite carte, mets ça contre votre mur, le miroir quelque part. 39.9, c'est clé, c'est un verset clé pour la vie de Joseph. Regarde ce qu'il dit, sa réponse à cette femme qui veut coucher avec lui. Il n'est pas plus grande que moi dans cette maison. Et ton mari ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal contre votre mari et péché contre Dieu, mon Dieu? Donc, la vie spirituelle, la vie verticale, sa foi en Dieu influence sa vie horizontale, ses décisions entre les gens. Ça, c'est la conviction de Joseph. Et Joseph a retenu l'histoire de sa famille. Oui, il est loin de la terre promise. Il est chez Potiphar en Égypte. Mais il sait que son arrière-grand-père, Abraham, il a aussi fait le compromis avec une Égyptienne. Donc, Joseph, écoute, il insiste, il résiste. Mais ça n'allait pas, ça va de pire en pire. Il va accuser Joseph de l'avoir violé et Potiphar va le jeter en prison. Mais dans la prison, Joseph se trouve. Et là, à la fin du chapitre 39, on voit en verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Joseph a reçu la faveur dans les yeux de Potiphar, et maintenant le chef de prison également. Il se confie toutes les responsabilités à Joseph. Joseph devient un petit Joseph, si vous voulez dire, dans la prison. Mais dans la prison, il y avait deux gars et ils avaient deux rêves. Deux gars, deux rêves. Le premier, c'est le chef de boisson de Pharaon. D'accord? Donc il est bien placé, mais il est en difficulté maintenant. Pharaon l'a mis en prison. Et l'autre, c'est le chef des boulangers de Pharaon. Ils ont chacun un rêve. Et Joseph, il fait son travail dans la prison. Il est fiable, travaille dur. Et il le voit, il dit, « Ah, pourquoi les mauvaises mines ce matin, les gars ?» Et il dit, « On avait le cauchemar, il n'y a personne pour expliquer. » Et on voit, on est en chapitre 40 maintenant, et verset 8, la foi de Joseph sort encore une fois. Verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qui appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Il explique, et Joseph est en communion avec l'Éternel depuis les deux rêves. Il ne comprend pas tout à fait, mais il sait qu'il va avoir des responsabilités éventuellement. Mais là, dans la prison, il est loin de la terre promise. Mais sa voix, Joseph n'a pas oublié Dieu. Dieu n'a pas oublié Joseph, et Joseph n'oublie pas Dieu. Donc il a Dieu qui appartient aux explications. Il dit, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, toi tu vas être libéré en 3 jours, et toi tu seras pendu en 3 jours. Et c'est ça ce qui se passait. Le pharaon acceptait le chef des boissons de nouveau, et puis, imaginez, ou devinez, combien d'années vont se passer. Parce qu'avant qu'il est parti au pharaon, Joseph a dit au chef de poisson, il dit, écoute, je suis un hébreu, je viens de notre pays et je veux juste retourner chez moi, c'est tout. Je t'ai vendu ici, mais parlez de moi, s'il te plaît. La fin du chapitre dit qu'il a oublié Joseph. Combien d'années vont passer? Vous devinez? Vous voyez un peu le deux rêves, vendu deux fois, en code de rêve, combien d'années ?
Deux années.
Bien, Yohann. Verset 1, le chapitre 41. Regardez. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Joseph persévérait. Il est dans les coulisses en Égypte, dans les prisons. Et là, le Pharaon va avoir combien de rêves ? Deux, bien sûr. Lèvez les doigts. Deux rêves. Hein ? Deux rêves vendus deux fois, deux foyers chez Potiphar, dans la prison. Deux rêves dans la prison, deux ans d'attente. Et maintenant, le pharaon a deux rêves. Mais il n'y a personne pour les expliquer. Ces magiciens sont nuls, ces sages sont nuls. Et puis, finalement, le franc est tombé pour le chef des boissons. Écoute ça. Vous vous souvenez, Pharaon, sire, que dans la prison, tu as mis moi et le chef du boulanger, et on avait chacun des rêves. Un petit hébreu a expliqué nos rêves. Vous m'avez libéré, mais vous avez pendu l'autre. Oui, je me souviens. Mais bien, peut-être lui peut nous aider. OK, va le chercher. Donc, il sort, Joseph de prison. Il se rase, il change l'habit. Et regardons. Verset 16, le chapitre 21. Le pharaon va expliquer ses rêves. Et Joseph, comme dans la prison, c'est le même gars. Il est intègre. Il a une foi en Dieu qui le protège des compromis, des bêtises sexuelles, mais aussi qui permet d'avoir une communion avec le Seigneur. Il dit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Waouh, ça c'est génial. Hein? Ça c'est génial. Il ne prend pas le crédit. Hein? Ce n'est pas un déconnec, c'est Joseph. Oui, et voilà en fait 1, verset 25, verset 28. Plus de fois il va donner la gloire à Dieu. Il explique les rêves. Il dit, écoute, c'est grave. Il y aura 7 ans, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il y aura 7 ans d'abondance dans toute Égypte, suivi par 7 ans de famine dans toute Égypte. Et puis il dit, si ces deux rêves sont ensemble, c'est parce que ça va arriver rapidement. Il faut commencer à agir maintenant. Vous devez trouver quelqu'un. Et Joseph fait tout un plan, pas avec PowerPoint, mais tout un plan pour le pharaon, comment gérer les 7 ans d'abondance. Parce que si vous les mal gérez, vous aurez le problème dans votre pays. Et qu'est-ce qui se passe après? Le témoignage de Joseph sort, comme Pharaon, comme Potiphar a constaté, versets 38 et 39. Pharaon constate ceci. Ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» L'Esprit de Dieu, dit Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Donc, il établit Joseph que numéro 2 dans le pays. Et dans le passage, Pharaon dit, pour toute l'Égypte, à genoux devant Joseph. Pas juste ses frères et ses pères, éventuellement, mais la nation d'Égypte, à genoux devant Joseph. Et comme vous voyez, Joseph devient Joseph. Il est chef d'Égypte. Hein? J'aime ça. Il est petit Joseph. Il avait 17 ans. Maintenant, il a 30 ans. Le temps passe. Et il persévérait. Mes amis, frères et sœurs, persévérez où vous êtes. Dans les coulisses, dans les difficultés, dans les injustices, dans la santé. Si vous avez la foi en Dieu éternel, il est avec nous. Je vous encourage, comme l'exemple de Joseph, persévérez-vous. Et après ceci, le pharaon a fait deux choses. Il a béni Joseph avec une femme. Il a parlé avec un de ses potes. Monsieur s'appelait Potiphéra. Et Potiphéra, pas Potiphar, mais Potiphéra, avait une fille, Asnath. Imaginez combien d'enfants ils ont eu. Vous voulez deviner? Deux, oui, c'est deux. Deux fils. Deux fils. Il a deux fils. Lui et le foie de Joseph sort encore. Regardons. Le nom de ses enfants sont importants. Verset 51. Joseph donna au premier, le premier-né, le nom Manassé. Car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il a encore les cicatrices. Comme Janet et moi, on n'a pas les mêmes douleurs, mais les cicatrices sont là. Mais Dieu nous a fait oublier les peines. On a cicatrices, oui. J'avais plus de cicatrices d'une blessure dans la basket et d'autres choses. C'était pénible. Et Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et puis le deuxième, Éphraïm est né. Il dit, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Chaque fois qu'il voit ses enfants, il va voir, je suis libre de la peine. Et je suis fructifié ici, en Égypte. Il persévère. Son foyer a deux enfants. Il avait deux foyers. Mais avant ça, il était vendu deux fois. Devinez combien de fois ses frères vont venir pour acheter du blé. Deux fois, dit le texte. Il vient deux fois. Et maintenant, c'est Joseph qui vend. Hein? Il était vendu. Maintenant, c'est celui qui vend du blé en Égypte. Et même Jacob constate que, écoute les gars, va en Égypte acheter du blé pour nous. Il y a du blé. J'ai entendu les échos. Donc, de 43 au 45, on voit ces deux voyages de ses frères. Et quand Joseph les voit, il ne sait pas tenir ses larmes. Il doit s'excuser dans une pièce pour pleurer, parce qu'il le voit. Mais eux, ils ne voient pas, ils parlent égyptien. Il a peut-être son autre coiffeur. En tout cas, ils reviennent et ils parlent dur avec eux. Il dit, il les excuse. Vous êtes les espions qui venaient en notre pays, hein. Pas juste pour le blé, mais aussi pour constater comment nous sommes, nos points forts, nos points faibles. Non. Nous sommes juste 10 frères. On a un 11e qui est chez nous, un 12e qui n'est plus, et nous avons un père. Non, moi, je ne fais pas confiance à vous. Je gardais celui-là chez moi. Et vous rentrez avec le blé et revenez une deuxième fois avec le 11e. Je veux le voir. Donc il part, Simeon reste, il part, il se dépêche et Joseph, ils ont recaché leur argent dans le sac. Donc il n'est même pas fait payer le blé à ses frères. Ils rentrent. Ils sont là avec Jacob. Jacob est traumatisé. Vous avez perdu Simeon en Égypte. Il veut que vous reveniez une deuxième fois avec Benjamin. Mais non, pas possible. Non, je préfère mourir ici. J'ai déjà perdu Joseph. Maintenant, peut-être Benjamin et déjà maintenant Simeon. Non, surtout pas. Mais le temps passe. Éventuellement, ils n'ont plus le blé. Et Ruben a dit, écoute, papa, moi, j'offrirai mes deux enfants. Si je reviens pas avec Benjamin, tu peux tuer mes deux enfants. Oh, quelle idée. Quelle idée, ce premier-né. Non. Jacob n'accepte pas. Et puis Judas revient. Maintenant, Judas est de retour. Il s'est éloigné, il était malhonnête, immoral, mais il vient à son côté de son papa. Papa, moi je te promets, je te mets comme garant, si Benjamin vient avec nous, il va retourner. Moi je vais arranger les choses. Donc il revient la deuxième fois. Chapitre 45. En fait, 43, parce qu'il y a cet échange et Joseph voit Benjamin, il a créé tout un banquet, mais il ne sait pas tenir encore le l'arme, donc il doit quitter encore. Il est Joseph, mais il a le souvenir. Il sait qu'il est Joseph, de terre promise, que Dieu éternel a promis à Abraham, Isaac, Jacob. Il décide de garder Benjamin et laisse-le partir. Et Judas, verset 33-43, il dit, écoute, notre papa ne va pas survivre ça. Ça va être la fin pour notre papa. C'est trop. Moi, je reste comme esclave. Je vous propose, moi, je resterai, je serai votre esclave. Et j'ai oublié de mentionner, quand ils viennent la première fois, tous les 10 se prosternent devant Joseph, comme dans les rêves. Et cette fois-ci, dans cet épisode, Judas aussi se prosterne devant Joseph. C'est trop. À 45, verset 5, Joseph entre dans la salle. Il ne sait pas tenir ses larmes là non plus. Il dit... 45.5, notez ça aussi, deuxième clé, d'accord? 39 quoi? 39, 9, bien. Maintenant, 45.5, regardez. Maintenant, ne vous flagellez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduite ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Il avait déclaré, c'est moi Joseph. Et les gens étaient choqués, ils viennent encore deuxième fois. C'est moi, Joseph. Et puis, il cite cette compréhension. Joseph sait ce qu'il avait rêvé. Il sait que c'est comme Dieu l'a préservé. Il sait ce qu'il fait. Mais Joseph avait le moyen de lâcher prise de l'amertume. Parce qu'il sait que Dieu, ok, Dieu peut, il permet la méchanceté. Mais Dieu n'est pas limité par la méchanceté. Tenez compte de ça. Dieu permet la méchanceté, mais il n'est pas limité par la méchanceté. Il peut produire quelque chose de bien, malgré le fait que Janet écrit un livre où on parle dans les églises et encourager les frères et sœurs ou les gens qui ne sont pas encore confiants en Dieu. On vit pour ça. Ça, c'est du bien. Ça a changé. Dieu a ouvert plus d'autres portes depuis 2016, qu'on n'a jamais imaginé, parce qu'on était là pour partir avec un vol. Et Joseph sait que Dieu est souverain. Et maintenant, les frères vont retourner, vont chercher papa, et voilà, les deux rêves sont la réalité. Ils sont tous ensemble. Joseph va prendre soin d'eux. Et en chapitre 47, c'est assez intéressant que Joseph a passe du temps avec son papa, et Jacob dit, je suis à la fin, et je te demande une chose, tu prends mes ossements et tu les mets dans le tombeau, dans la terre promise, d'accord? Et Joseph dit, je te promets papa. Donc il a mis sa main sur le cuisse pour fermer la promesse. Et puis, le texte dit que Jacob se prosternait devant Joseph sur son lit après cette déclaration. Et puis, nous arrivons, ils sont tous ensemble. Il part quand Jacob est mort. Il reçoit la permission de Pharaon d'avoir tout un régal avec lui, tout un groupe, tout un parade qui va traverser l'Égypte et revient dans la terre promise d'Israël. Et il place Jacob. Et maintenant, chapitre 50, quand on pense que tout va bien, les frères commencent à avoir peur. Ils pensent, Joseph, maintenant que papa n'est pas là, il va nous faire mal. Il va prendre son vengeance. Et quand ils viennent à Joseph, pour tromper l'histoire, il dit que papa nous a dit de te dire que quand tu n'es pas là, il faut que tu nous pardonnes pour notre méchanceté. Et Joseph, il connaît ses frères. Il connaît son papa. Mais il dit, il pleure encore. Chapitre 50, versets 19 à 22. Joseph pleure. Il dit, écoutez les gars, non, je prends soin de vous. Dieu m'a mis ici. Je prends soin de vos enfants. On est bien. Et à 45, 5 jusqu'au 15, ça termine avec encore les larmes. Il pleure sur l'épaule de Benjamin. Et puis tous ses frères et lui, ils ont un group hug, tous ensemble, ils pleuraient. Versets 15 à 45. Et maintenant, en chapitre 50, 17 ans plus tard, il dit, verset 21, il les consola en parlant à leur cœur. Il parle à leur cœur. Il a de l'amour dans leur famille maintenant. Parce que Joseph suivait l'Éternel. Joseph lâchait prise de l'amertume. Il lâchait prise de l'haine. Il lâchait prise de vengeance pour qu'il puisse recevoir la bonté de Dieu, l'amour qu'il partage avec ses frères, sa famille. Voilà. Quand tout vole en éclats, n'oubliez pas, Dieu n'a jamais oublié Joseph et Joseph n'a jamais oublié Dieu. Et je vous encourage de remplacer le nom de Joseph avec le vôtre. Moi, j'ai fait ça. Souvent. Dieu n'a jamais oublié Fred. Et Fred n'oublie pas Dieu. Moi, je veux vivre avec cette compréhension, cette révélation. Ça m'aide tous les jours. Et je vous encourage. J'ai deux pistes à vous donner. Ça va? On voit qu'il y a deux rêves, deux réalités. Vendu deux fois, mais ils vendent, pas vraiment. Et puis, deux foyers, mais un foyer qui est doublé. Tu sais, il n'y a pas de territoire de Joseph en Israël. Non, il y a deux. Un territoire pour Manassé, un territoire pour Ephraïm. Doublé. Puis, deux rêves, et 2 ans. C'est une symétrie qui nous aide à retenir une grande histoire. Un tiers des Genèses. Mais 2 pistes à suivre. Si vous voulez suivre l'exemple de Joseph, nous persévérons dans notre foi en prenant les bonnes décisions chaque jour. Décidez. Vous vous réveillez dans la nuit ou le matin et vous commencez votre journée. Faites les bonnes décisions. Dites à Dieu, Dieu, je vais prendre les bonnes décisions qui te plaisent. Les bonnes décisions. En connaissance de votre relation avec Dieu, Joseph connaissait le Dieu d'Abraham. Il connaissait le compromis d'Abraham avec cet Égyptien. Il connaissait beaucoup d'histoires entre Abraham, Isaac, Jacob. Il n'avait pas une Bible, Joseph. Qu'est-ce qu'il avait? Les histoires. Et je vous encourage de garder les histoires, garder les versets aussi, oui. Mais que ça garde, ça forme une fondation pour vos décisions, chaque jour. Prenez les bonnes décisions à la maison avant que vous quittiez, au travail, en route pour le travail. Je sais que le trafic n'est pas facile à Bruxelles. Les trains ne sont pas toujours à l'heure non plus. Mais quand même, dans les situations, prenez les bonnes décisions pour vous, dans votre comportement avec le Seigneur. Les gens voient. Les gens constatent, les gens qui prennent les bonnes décisions. Il a fait chez Potiphar, en prison, en Égypte et dans sa famille. Deuxièmement, nous tiendrons l'espérance et le courage de travailler dur, dur, malgré les difficultés. Ce n'est pas le paradis ici. Non, c'est du travail. Et Joseph travaillait dur. Chez Potiphar, en prison, même le palais, toute Égypte, il travaillait dur, fiablement. N'ayez pas peur de travailler dur, chaque jour. Oui, j'entraîne les joueurs de basket et je le fais travailler dur dans mes entraînements parce que dans les matchs, je veux que ça soit facile. Travaillez dur. N'ayez pas peur de faire votre meilleure façon de travailler. Paul, en prison, il écrivait aux Colossiens, vous le connaissez peut-être, le verset 30, chapitre 3, verset 23. J'ai appris ça dans mon deuxième année de croyance en Jésus-Christ. Ah, je peux tout faire pour le Seigneur et pas pour les hommes. Je peux m'entraîner, je peux étudier, je peux m'entraîner dans cette équipe de basket à l'université, malgré le coach, il était dur, c'est hard, très vulgaire, mais je peux travailler et jouer pour le Seigneur, et pas juste pour coach Brohart. Ça m'a libéré. Ça vous libérait aussi. Travailler pour le Seigneur, dur. Et les hommes vont voir, ils vont constater. Dieu nous a donné une habilité, il a donné le don spirituel, il nous a créés pour réussir dans ce monde. Réussir dans ce monde. Et vous serez étonnés de voir à quel point ces deux approches de la vie vous présenteront les nombreuses façons de servir, d'aider, de prendre soin des autres, de vivre l'amour sincèrement dans la famille, dans la maison, dans le métro, au travail. Bonne décision et travail dur en face de Dieu qui nous donne sa bonté. Et je vous souhaite une très très bonne année, c'est encore tôt dans 2024, que ça soit une année féconde pour vous. Que vous avez fait le fécond avec, comme Joseph. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous constatons que tu n'as jamais oublié Joseph. Et nous voyons l'avantage, l'extra que Joseph possédait parce qu'il n'a jamais oublié non plus. Seigneur, je prie pour cette église, mes frères et mes sœurs ce matin, que leur vie soit comme Joseph, mouvementée, mais aussi avec les réussites, avec des moments d'humiliation, mais aussi exaltation, parce que tu es bon et tu sais prendre soin de nous, tu sais nous utiliser pour ta gloire. Et je te remercie pour Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et nous voyons que Judas a eu une transformation et que tu as fait confiance à Judas. Il est dans la généalogie de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ta grâce dans la vie de Judas et ta puissance dans la vie de Joseph. Amen.